Lettre 29e. Agathoclès à Phocion, Nicomédie, novembre 301. Je suis séparé de Larissa. Ce vœu que ma raison formait en dépit de mon cœur, depuis notre rencontre imprévue, est maintenant accompli. Je suis séparé de l'épouse de Démétrius, et pour jamais, sans doute. Cette chaîne invisible qui liait nos deux cœurs dès notre enfance est brisée. Près d'elle, aimé d'elle, je n'étais pas heureux. Ce qu'elle pouvait et voulait m'accorder ne pouvait satisfaire une passion ardente comme la mienne. Et cependant, je n'aurais pas voulu que Larissa cessât d'être l'objet de mon admiration et de mon amour, comme la plus noble et la plus vertueuse des femmes. Ces désirs contradictoires, ce combat continuel abattaient mes forces. Il fallait ou mourir ou devenir indigne de vivre. La fuite alors était le seul parti qui me resta. Du moins, je ne me suis pas fait d'illusions. J'ai vu le précipice dans lequel j'allais tomber et entraîner peut-être avec moi la meilleure des femmes. Je me suis éloigné en frémissant. Loin d'elle, j'ai retrouvé mon énergie. Aucun sentiment doux et tendre ne vient l'amollir. Il n'est plus question de choisir entre la mort et la trahison. Le chemin du devoir m'est ouvert. Et malgré les épines cruelles dont il est hérissé, j'y suis entré. Je veux y frayer ma route, l'y poursuivre avec courage. Mais, Phocion, que ton ami est malheureux. Je ne suis plus alarmé. La date de ma lettre te l'aura pris. L'intrigue et la cabale ont triomphé. Démétrius est éloigné du commandement. Les ennemis de cet homme sévère mais vertueux sont parvenus à tromper le clairvoyant Dioclétien. Les choses lui ont été présentées sous un faux jour. Il a fait ce que ceux-ci ont voulu, en croyant ne suivre que sa propre volonté. Il a ôté le commandement au général qui venait, au péril de sa vie, de lui conquérir une place importante, et son successeur est en chemin. L'amour-propre blessé de Démétrius n'a pu supporter cette injustice. Il a demandé sa démission au moment même. Il va partir avec son épouse pour vivre tranquille sur les bords du Bosphore. Ainsi Larissa se serait également éloignée de moi. Mais j'ai dû partir le premier. Et quoiqu'il m'en coûtât d'abréger les derniers instants de mon existence morale, j'ai cédé au devoir que m'imposait à la fois l'humanité et l'amitié, pour sauver, s'il est possible, une malheureuse femme et mon ami. J'ai joui avec une sordide avarice des derniers jours que j'ai passés près de Larissa. Je ne l'ai pas quittée un instant. Je me délectais dans ces derniers instants de bonheur. J'écartais cette gêne, cet embarras, qui depuis quelque temps m'éloignait d'elle. Je voulais au moins supporter le doux souvenir du bonheur. Du seul bonheur que je puisse espérer, celui de me sentir aimé de Larissa. Elle comprit ce vœu de mon cœur, en me traitant avec la confiance d'une sœur et la tendresse d'une amie, avec bonté, avec ménagement, avec la plus douce franchise. Elle m'avoua qu'elle avait cru que je ne l'aimais plus, et que rassurée sur ce point, elle pouvait supporter tout le reste. Oh, Phocion! Si tu connaissais cette femme vraiment céleste, qui s'est alliée dans son cœur tout le feu d'une passion ancienne, unique et malheureuse, avec la pureté des anges, si tu savais ce qu'on entend par ce mot d'ange, et quelle idée de sainteté et d'innocence les chrétiens y attachent, tu comprendrais mieux ce que je veux dire. Ces esprits aériens, immortels, qui n'ont rien de terrestre, et qui sont un des objets de leur croyance, ne sont pas plus innocents qu'elles. Que suis-je en comparaison, moi, livré à des désirs insensés, à l'agitation d'une passion désordonnée? Que de grandeur dans la paix de son âme, dans cette résignation surnaturelle qui lui fait supporter le poids de l'infortune! Que de richesse dans ce cœur déchiré par ses propres peines! Elle y trouve des consolations pour son malheureux ami, et une tendre estime, un amour filial pour le vieillard chagrin, sévère, auquel sa vie entière est irrévocablement liée. Et cette femme, telle qu'il n'en existe point, je ne la reverrai peut-être jamais. C'est avec cette cruelle conviction que nous nous sommes séparés. Démétrius prit congé de moi avec une affection vraiment paternelle. Il fondait en larmes. Je reçus à genoux sa bénédiction. Il me la donna à titre de père, de chrétien, et je ne pus m'empêcher de baiser cette main qui porta si longtemps les armes et qui faisait le signe de la croix sur ma tête. Non, Phocion, ce n'est point une erreur. Le christianisme élève l'homme à une hauteur inconnue. Dans ce siècle corrompu, égoïste, où les plus beaux sentiments ne sont plus qu'une chimère, où l'amour de la patrie, qui pourrait seul réveiller les hommes de leur sommeil léthargique, n'est plus qu'un fantôme sans force et sans pouvoir. Il paraît que la grandeur d'âme, le vrai courage, toutes les nobles facultés qui relèvent l'âme humaine, se sont réfugiées parmi les chrétiens. Ils pardonnent à leurs ennemis, ils prient pour leurs persécuteurs, pendant que les païens se permettent les représailles les plus cruelles, et qu'une secte de philosophes enseigne la vengeance, la déifie et lui élève des autels. J'ai trouvé ici des affaires qui m'ont forcément détourné de ma triste mais douce et continuelle pensée. Le faible Tiridate n'a pas su résister aux appâts de la volupté. Il s'y est abandonné sans réserve. J'ai ressenti un vrai chagrin en le retrouvant dans un tel état d'abjection, livré aux passions les plus honteuses comme aux plus viles des femmes. Mais j'ai vu avec un égal plaisir la force dont son âme est capable. La voix de la vertu, celle de l'amitié ont repris leur empire sur lui. Il a secoué ses chaînes déshonorantes. Il est enfin rentré dans le chemin de l'honneur. Il est vraiment étonnant de trouver réunis chez le même homme tant de courage et tant de faiblesse. Le sentiment exquis de ce qui est bien avec un attrait extrême pour le mal. Tiridate est un de ces êtres chancelants entre la vertu et le vice, qui se laissent entraîner à l'un ou l'autre avec la même rapidité. Occupé de son amour pour une femme sensible et vertueuse, des plans d'une campagne, des projets de sa grandeur future, il peut s'occuper en même temps et avec le même zèle de l'arrangement d'une fête ou d'un rendez-vous avec une méprisable courtisane. Couché sur des coussins, entouré de parfums, couronné de roses, enivré de chants voluptueux, il paraît un efféminé sybarite. Il étend la trompe, se relève, saisit son armure, court au combat et défie le dernier des soldats à supporter les privations, les fatigues et les dangers aussi bien que lui. On dirait qu'il a deux âmes, la débauche de la cour, la galanterie éhontée de quelques femmes, et la société des libertins les plus consommés avait assoupi pour quelque temps la meilleure partie de lui-même. À présent, elle a repris son attitude fière, courageuse, et la volupté est repoussée loin de lui. Il est parti pour l'armée. Il a rompu à la fois tous ses honteux liens. J'espère que je réussirai à le maintenir dans cette bonne disposition. Un des moyens les plus sûrs, quoique je l'emploie à regret, est de lui parler de Sulpicie. Elle était presque oubliée, mais son nom, le tableau de sa douleur, de son amour, ont suffi pour réveiller le sien et anéantir ses indignes rivales. Livré au prestige des sens, son cœur était resté fidèle à cette femme intéressante par ses malheurs. Mes relations amicales avec Calpurnie sont renouées. Elle m'a écrit au sujet de Sulpicie. Vraiment, Calpurnie est aussi un de ces êtres composés de deux âmes différentes, un Tiridate féminin. Occupée de sa figure, de ses talents, de ses succès, elle s'oublie elle-même pour ne penser qu'aux peines de son ami et aux moyens de les adoucir. Vaine, coquette à l'excès et cependant bonne, quelquefois même sensible, on ne saurait la définir. Vertueuse par goût et par principe, elle affiche pourtant souvent les opinions les plus légères, les plus inconsidérées. Je ne puis ni lui refuser mon estime, ni approuver sa façon de penser à plusieurs égards. D'après les bruits publics, son père est appelé par l'empereur comme proconsul à Nicomédie, et la famille entière doit s'y rendre au printemps prochain. Je suis encore incertain si je dois me réjouir ou m'affliger de ce que nos relations d'amitié se soient renouvelées. Calpurnie est aimable, mais combien elle est loin de cette Larissa perdue pour moi et que je devrais oublier. Adieu.